tu aimes les podcasts, tu as remarqué que ces petites capsules audio sont très addictives. Elles nous captivent, nous divertissent et nous permettent aussi d'apprendre. Ça ne t'a pas échappé non plus, il y a de plus en plus de podcasts disponibles sur des sujets divers et variés. Le catalogue de podcasts est de plus en plus gros et il est bien difficile de s'y retrouver dans ce foisonnement de pastilles audio. Et du côté des acteurs, les radios trustent les hit parades de podcasts, les maisons de production de podcasts cherchent leur rentabilité pour la plupart, les marques ont encore un peu de mal à s'y mettre, les créateurs de podcasts indépendants se battent pour se faire entendre dans un marché de plus en plus saturé. Quant aux grandes plateformes d'écoute, elles luttent pour établir des modèles économiques viables. Bref, il semblerait qu'en 2023, l'écosystème du podcast soit à un tournant. Quelle est la situation de l'écosystème podcast en 2023? Comment s'en sortent les créateurs de podcasts? Quels sont les grands défis et les opportunités en 2023? Quelles nouvelles tendances se dessinent pour en avoir le cœur net? Et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Philippe Chapeau, le fondateur et directeur de publication de La Lettre Pro de la Radio, du Paris Radio Show, du Pod et de Podcast Magazine. Bonjour Philippe.
Bonjour PPC.
Grande joie de te retrouver ce matin, toi qui es un monument du podcast et qui connais ça par cœur. J'avais envie de te demander en synthèse et pour démarrer ce podcast, quels sont les deux mots-clés, les deux hashtags qui te viennent spontanément à l'esprit quand tu penses à l'écosystème podcast?
Mais quand je t'écoutais parler, le premier qui me vient à l'esprit, c'est monétisation, parce que c'est une des problématiques récurrentes dans cette industrie du podcast naissant. On en parlera peut-être, elle est naissante cette industrie, parce que même si Sylvain Gir dirait le contraire, de Arte Radio, ça fait plus de 12 ans, il a même fêté, je pense, ses 20 ans il n'y a pas longtemps, qui fait du podcast, ça fait vraiment 2-3 ans que en France, ça s'installe vraiment sérieusement avec de la mesure d'audience, donc c'est comme ça qu'on arrive à installer une industrie. Et la monétisation, c'est aujourd'hui l'enjeu majeur pour la plupart des acteurs. Donc ça serait mon premier hashtag.
Bien vu, hashtag monétisation. Deuxième hashtag.
Le deuxième hashtag, tu t'y connais très, très bien dans ce deuxième hashtag, et on s'y intéresse nous aussi de près, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui font ça. Et puis moi, j'ai compris à quoi ça servait vraiment, c'est hashtag NFT. C'est cette propriété immatérielle qui est dure à rentrer dans les esprits, qui n'est pas facile à appréhender quand on est néophyte, mais qui est un enjeu, à mon avis, majeur pour l'avenir immatériel de tout un chacun.
D'accord, donc monétisation, NFT, Web3, donc on voit bien que les podcasts sont dans le coup finalement de ce qui se passe sur l'économie des créateurs. Du côté des différents acteurs, je disais en intro, je parlais des radios, des maisons de prod, des marques aussi, quelle est ta vision justement sur tout cet écosystème qui est très foisonnant lui aussi?
Oui, il est très foisonnant parce que il y a eu, si on prend le prisme des stations de radio, elles étaient dans un quasi monopole de l'attention audio, et d'un seul coup, on leur dit, vous avez autant de concurrents que de gens qui peuvent créer des podcasts, qui ont des compétences diverses, qui sont pas forcément des professionnels, mais qu'ils deviennent petit à petit. Et puis certains qui sont des professionnels qui lâchent la radio pour aller vers du podcast. On a des exemples concrets de grandes personnalités de la radio qui sont parties de la radio. Et il y en a de plus en plus maintenant qui sont en train de passer le pas. Donc aujourd'hui, l'écosystème du podcast, il est sur le prisme des radios, il est de la concurrence. Donc il faut qu'on se bouge, et en même temps, une audience qui s'effrite. De la radio classique, la radio FM, comme vous la connaissez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher ces paires d'oreilles qui sont là où ils ont du mal à aller chercher, c'est-à-dire sur le digital? Et parce que les radios ont, pas toutes, mais la quasi-majorité des stations ont continué à faire ce qu'elles ont démarré dans les années 80. Et elles ont un peu évolué, bien entendu, au fur et à mesure, mais pas tant que ça. Ce qui fait qu'il y a vraiment un tremblement de terre à faire au niveau des boîtes qui gèrent aujourd'hui des stations de radio. Radio France fait un bon boulot et arrive à faire une transition sur certaines de ces stations dans le digital et surtout au niveau du podcast, qui est intéressant. Mais sinon, c'est très compliqué de faire comprendre à des directeurs des programmes ou à des patrons de radio de lever le nez, enfin lever les oreilles, d'écouter un peu ce qui se passe autour, parce que c'est ça qu'ils ne font pas. Et quand j'en parle à des directeurs de programme et que je leur dis « est-ce que vous écoutez des podcasts ?», ils me disent « non, mais on en fait ouais, ». Alors qu'ils n'en font pas beaucoup et ils copient souvent ce qui se fait et ce qui marche ailleurs. Là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux super formats qu'on n'avait jamais vus de une minute. Ils prennent un mot, ils expliquent ce que c'est.
Waouh, incroyable. Ça existe depuis 10 ans.
Voilà, donc en fait, ils surfent un peu comme ils peuvent. Et nous, on est là pour essayer de les fédérer, puis de leur donner une vision et d'être en veille sur tout ce qui se passe dans cet écosystème. Et de l'autre côté, il y a la partie podcast, la partie écosystème du podcast, qui est... donc je dis qu'il est naissante parce que les acteurs sont pas nouveaux. Il y a des structures qui font du podcast depuis maintenant 5, 6, 7 ans et qui commencent à voir un peu le bout du tunnel. Et il y a de plus en plus de sociétés aujourd'hui qui gagnent de l'argent, mais il ne faut pas rêver. Ils gagnent de l'argent avec le podcast de marque. Et le podcast de marque était quand même un podcast qui donnait envie aux marques, mais sans connaître vraiment le retour sur investissement, parce que c'était tendance de faire du podcast. Là, maintenant, les marques, elles font un peu plus attention, elles veulent ces fameuses KPI, là, ces fameuses données qu'on doit leur fournir, même si il y a des structures comme par exemple Orso Media qui arrivent à aller au-delà de ces KPI parce qu'ils sont capables de montrer que quand ils parlent d'une marque, derrière, il y a des gens qui s'inscrivent. Donc, il y a un retour sur investissement immédiat sur de l'inscription suite à l'écoute du podcast. Et c'est là où le podcast est très puissant. C'est sa capacité à donner envie à l'auditeur parce que c'est intime, parce qu'on est avec la personne et qu'on lui fait confiance et qu'on écoute en moyenne plus de 80% de ce contenu, quelle que soit la durée d'ailleurs. Il y a des podcasts qui durent 2h30, il y a quand même une complétion de 80%. Donc, c'est ça. Et donc, le podcast réinstalle aussi quelque chose d'intéressant par rapport aux médias radio. C'est des choses différentes. Hein. Le média radio, on ne peut pas le comparer au podcast. Mais ça apporte le temps long, en fait, qu'on n'avait plus. Enfin, on se dit qu'on n'a jamais de temps et on arrive à écouter des podcasts de 2h30. Donc, il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant.
Ouais, c'est fort, c'est très fort. Tiens, je prends une question, c'est celle de Fabrice qui te demande quelle est, selon toi, la stratégie de Radio France quand Radio France décide de lancer un casting de podcasteurs ?
Podcasting, ouais. Podcasting, d'abord, c'est pas nouveau. Hein. Il y a des choses qui existent au Québec depuis longtemps. On en parle d'ailleurs dans le prochain magazine qui va sortir avec une personne qui est en charge de audio. Ça s'appelle Audio, O-H-T-I-O, au Québec, qui font depuis plusieurs années des castings de podcasteurs. Donc Radio France s'y met, parce que, comme je le disais, moi, il y a 3 ou 4 ans, on faisait une conférence en ligne, puisqu'à l'époque, on était déjà sur les conférences en ligne, et il y avait la patronne des programmes de NPR aux États-Unis, la radio publique américaine, qui disait que c'était de la concurrence qui arrivait. J'en parlais en introduction aussi. Donc, cette concurrence-là, il faut arriver à la capter. Après, ce que fait Radio France sur podcasting, choisir 6 podcasteurs pour les accompagner sur un pitch de 2 minutes, on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus cossu. Après, je pense que c'est bien de mettre les pieds dedans. Je pense qu'ils font un bon travail sur pas mal de podcasts natifs. Après, il y a quand même une ambiguïté sur la diffusion ou pas sur la station. Si je prends l'exemple de Radio-Canada, donc CBC Radio Canada, alors CBC, c'est le pendant anglais, anglophone de Radio-Canada, et Radio-Canada, c'est le côté... ils ont vraiment trois co-directrices, une qui fait audio, le podcast, une qui fait la radio parlée, et une qui fait la radio musicale. Et comment ça fonctionne depuis maintenant plus d'un an, Ils ont cloisonné totalement ces trois secteurs. Donc, tu as d'un côté audio qui est totalement hermétique par rapport aux deux autres secteurs qui sont la radio parlée et la radio musicale. Et il y a en moyenne moins de 5% des podcasts qui sont diffusés sur les antennes radio. Ce qui fait qu'en fait, ils vont chercher un tout nouveau public par le biais du podcast avec cette marque audio, O majuscule, H majuscule pour O et Dio derrière pour, voilà, pour radio. C'est de l'audio, et bien sûr le terme audio derrière qu'on entend. Et ils ont une augmentation de l'audience de la radio en partie grâce à ça, grâce à ce travail qu'ils ont fait depuis des années, parce que ça fait des années qu'ils le font, sur le balado, comme ils l'appellent au Québec, et ça a apporté ses fruits parce que c'est un nouveau public qui ne connaissait pas Radio-Canada ou qui n'écoutait plus que Radio-Canada et qui, par le podcast natif, va écouter les autres programmes en linéaire, donc sur la radio FM, ou sur la radio digitale, puisqu'elle existe aussi au Québec, la radio qui est comme le DAB+ en France, qui est en train d'arriver aussi. Et ça, c'est assez marquant. Donc, il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Ce qui est nouveau, c'est que ça arrive en France et qu'ils s'intéressent aux podcasteurs natifs. Après, il y a plein de podcasteurs natifs qui s'en foutent parce que la radio ne leur fait pas rêver.
J'ai demandé de rebondir sur les propos de Charles qui nous dit « Les entreprises traînent des pieds pour aller sur le podcast au-delà des KPI. » Est-ce que tu as des exemples, Philippe, de call to action qui fonctionnent pour d'autres ?
Oui, c'est, bien sûr, il y a des exemples. Aujourd'hui, il y a l'exemple le plus intéressant parce qu'ils ont une approche qui ne va pas dans la statistique et qui ne va pas forcément dans les données aujourd'hui qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire les ACPM avec les certifications ou les médiamétries avec les classements de e-stat qui peuvent exister sur la partie podcast. Comme je le disais en introduction, c'est des boîtes comme Orso Media qui sont des labels, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner un certain nombre de podcasteurs parce que, pas forcément parce qu'ils ont une audience colossale. Alors oui, il y a l'audience qui doit être présente derrière, bien entendu, aujourd'hui, mais parce qu'ils ont une niche qui est intéressante. Et donc, Orso Media, aujourd'hui, 27 podcasteurs, et sur ces podcasts, leur méthodologie, elle est de dire, si d'abord, d'aller chercher une marque parce que eux aime la marque, parce que l'animateur aime la marque et qui se dit, moi, j'aimerais avoir cette marque parce que je crois en cette marque dans mon podcast, et en plus, je leur demande de payer. Donc, en fait, l'approche est totalement inverse par rapport à un commercial qui va aller essayer de vendre un peu sa soupe. Un bon commercial, apparemment, sait tout vendre. Là, c'est totalement une approche inverse. C'est l'approche où le créateur de contenu aime une certaine marque et va le démarcher pour lui dire, j'aime votre marque et je veux en parler, je veux que vous, en gros, participez à l'image de votre marque, mais vous me payez. Et ça marche parce que derrière, ils savent que ces personnes, ces animateurs, ces hosts, comme on les appelle, engagent. Et quand il y a de l'engagement derrière, bien entendu, il y a du click to action, enfin, il y a du, c'est pas du click, c'est du ear to action, et il y a de l'engagement concret qui est fait derrière parce que on a ce média d'intime, on a cette confiance et on a cette complétion. Et quand on a les trois ingrédients, obligatoirement, on va avoir du résultat.
Ce qui est curieux, c'est que ce modèle, finalement, on renverse un peu la table et on va aller chercher les marques avec lesquelles on souhaite finalement collaborer. Les radios ne savent pas le faire, ça ?
Les radios, elles ont des régies publicitaires.
Ils vendent de l'inventaire, donc, c'est ça ?
Ah ben, les radios, c'est... En fait, il faut penser quand même que la radio est un média, ce qu'on appelle broadcast. Broad pour tous, cast pour envoyer, en fait. On envoie à tous. Le podcast, c'est on envoie à un iPod, à l'époque. Ouais. Ça vient de là, le nom podcast. Donc, obligatoirement, on n'a pas du tout la même logique, la même approche, et on doit vendre de la quantité, on doit vendre en plus aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si vous écoutez la radio, ils essayent de faire des choses, certaines radios essayent de se positionner un peu différemment en réduisant un peu les tunnels de publicité qu'il y a, mais c'est du remplissage aujourd'hui, et du remplissage où on arrive des fois à 16 minutes par heure de publicité en radio linéaire. Donc c'est inécoutable quand on est dans les embouteillages, et en plus c'est toujours aux heures où on est dans sa voiture en général.
Comme c'est bien fait.
Qui mettent la publicité.
Comme c'est bien
fait. Et ils synchronisent entre radios, ce qui fait que tu veux zapper, tu retombes sur de la pub à côté. Donc en fait il y a ce remplissage qui est un peu obligatoire par les régies pub et qui dit allez vous m'en prendrez combien. Donc on est vraiment dans une approche qui n'est pas personnelle, qui n'est pas personnalisée. Et qui donc, avec 1% de toute cette quantité de gens qui écoutent, eh bien, vous allez quand même avoir un peu de gens qui vont vous acheter votre produit, monsieur le maraîcher.
Et le podcast live, tu vois ça comment ?
Alors moi, je voulais d'abord faire un petit clin d'œil parce que je suis très content d'être sur ton podcast PPC parce que je pense que tu es une des premières personnes quand... Je commençais à avoir l'idée de lancer le pod à l'époque. Je t'ai rencontré dans un événement, je ne sais plus, à Paris, et j'ai vu que tu faisais ton podcast en direct. Tu étais à la saison 1, je pense.
Je me souviens bien.
et je me disais, mais c'est génial, un podcast en direct, mais c'est assez incroyable. Alors, il y en a très peu de podcasts en direct réellement qui se mettent en place. Il existe par contre des podcasts qui sont, enfin, on va dire des YouTubers, qui font après une version audio de leur podcast et donc qui font un YouTube live et qui derrière rediffusent en podcast, mais pas vraiment en direct. Bon, toi, c'est pareil, c'est-à-dire que tu reprends l'audio et tu le mets à dispo en podcast. Mais il y en a très peu de podcasts en direct sur la planète. Donc tu fais partie des exceptions.
Ma journée est faite. Merci Philippe. Tu as posé une question avant qu'on démarre cet enregistrement du podcast live. Tu as posé une question aux participants et comme c'est du live, eh ben, je vais te donner les premières réponses et je vais te demander de réagir aux commentaires des uns des autres. Alors il y a Wizou qui nous dit je suis abonné à des dizaines mais en ce moment j'en écoute, regarde quelques-uns de temps en temps. Alice nous dit elle n'ose pas le dire. Plus de 150, peut-être 250 avec les sujets suivis, avec Podcast Addict, on peut s'abonner à des thématiques. Elle fait 3 heures par jour au minimum. Charles dit 4 podcasts, fun, ciné, tech, talk show et bonjour PPC. Merci. Anne nous dit qu'elle en écoute 4. Christian nous dit qu'il écoute une vingtaine, mais un seul à la fois. Merci, c'est pas mal Christian. Et quant à Vincent, il nous dit juste 3 ou 4 podcasts réguliers et de nombreuses chaînes YouTube. Est-ce qu'ils sont représentatifs des statistiques que tu as, toi, Philippe?
Alors, il y a une grosse étude qui est sortie. On a fait un petit papier dessus, d'ailleurs, sur la lettre et la lettre pro, et où on parle de plus en plus de podcasts aussi. Ça, c'est quand même à noter parce qu'on est à l'origine un média principalement de radio, où on parle que de radio. Et maintenant, on a 10, 20, même des fois 30% des actus. On fait 10 articles par jour de nos contenus qui sont liés aux podcasts, soit faits par les radios, soit exit radio, soit des podcasts dont on parle parce que ça fait partie de l'écosystème audio. Aujourd'hui, les statistiques qu'on a, et donc on a fait il y a une grosse étude qui est sortie la semaine dernière, en milieu de semaine. En moyenne, dans le monde, sur l'ensemble des internautes, là on va parler des internautes qui ont un accès à Internet, dans le monde, on est à peu près à une heure par jour de la population qui écoute du podcast. Donc, on écoute en moyenne une heure par jour, et ça dépend des pays après, concrètement. Aujourd'hui, sur la quantité, alors là, on n'a pas d'infos sur la quantité de podcasts qui est écouté. Ce qui est certain, c'est que ceux qui écoutent des podcasts en écoutent plusieurs, et donc faussent un peu les chiffres quelque part. Mais ce qui est notable pour la France, et ça sera mon dernier chiffre pour ne pas vous abreuver de chiffres, et je vous invite après à aller voir les articles, c'est la France est en peloton de fin. C'est-à-dire que sur les 50 pays qui sont listés dans les plus gros consommateurs de podcasts, la France est 44e.
Waouh !
Avec 14%. Des gens qui ont accès à Internet, qui écoutent des podcasts, là où les premiers, ça va être le Brésil. Si vous voulez, derrière nous, il y a la Corée du Sud et le Kenya. Enfin, je pense que c'est à peu près ça. Et le Ghana, pardon. Donc, on est à 14% des gens qui ont une connexion à Internet, qui écoutent des podcasts. Ça veut dire qu'on est à une... voilà, une initialisation qui n'est pas faite du tout en France. Il y a des gens qui écoutent des podcasts et qui en écoutent plusieurs et qui sont aficionados. Et donc, on a l'impression que tout le monde écoute du podcast, mais on est loin, 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 très loin du compte. Et quand vous regardez, les marques parlent de podcasts, mais elles parlent de leur podcast. Elles ne parlent pas d'autres podcasts.
On voit bien, hein, on n'est qu'au début finalement. Donc, s'il y a du rattrapage, c'est pas mal. C'est peut-être une opportunité pour tous les créateurs de podcasts. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Bon, allez, à toi qui nous écoutes, bon, je te donne un rendez-vous. On peut le dire, tu sors le numéro 2 de Podcast Magazine là, dans quelques jours, semaines.
Ouais, ben j'ai passé un peu la nuit à refaire les dernières correctes, donc si tout se passe bien, on a un peu de retard aussi pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté sur la partie papier, mais c'est bon, là j'ai eu des confirmations, donc normalement il devrait sortir pour le 15 février.
Oui. D'accord, on le trouve en kiosque, on le trouve où ?
Non, malheureusement on ne trouve pas en kiosque encore, parce que c'est compliqué, on a eu 150% d'augmentation sur le tarif du papier, donc on voulait... en imprimer beaucoup plus et partir en kiosque, malheureusement, c'est hors de prix. C'est quasiment, on doublait quasiment, c'était impossible de partir, donc on ne part pas en kiosque. Donc il est disponible uniquement à l'achat sur le site podcastmagazine.fr.
Ok, bah bonne adresse, on ira le voir, podcastmagazine.fr. Merci à toi Philippe d'être passé ce matin pour enregistrer ce podcast en live, merci à toi.
Mais ce fut un plaisir.
Ça te fait un grand plaisir, moi aussi. Merci aussi à toi d'avoir participé à ce direct. Parce que c'est un podcast qu'on enregistre en direct. On fait notre tambouille ensemble le matin. C'est un peu bizarre. Il y a les pains, les croissants, les chocs à pic dans tous les coins. On enregistre ce podcast. C'est toi qui l'écoutes en ce moment sur ta plateforme de balado-diffusion. Ça s'appelle Le Digital pour tous. C'est disponible, bien sûr, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, j'en oublie, Google Podcasts, Amazon. Enfin bref, sur toutes les bonnes plateformes de podcast en replay, ça tombe bien. N'hésite pas à t'abonner, mettre un 5 étoiles, partager. Enfin bref, c'est que du bonheur. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.